liberté, égalité, révolution et république, égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour.
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 Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. paroledecitoyen@frequence7.net, minuscule singulier, tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Au menu du jour, une entrée consistante et un dessert. En entrée, nous ferons le point sur les luttes avec Dominique, sur les actions, conférences passées et à venir sur notre territoire. Et nous terminerons toujours en solidarité avec le peuple palestinien génocidé, en partageant avec vous une recette d'un des pays du Levant. Alors surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit!
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, au niveau de tout ce qui mobilise les citoyens du Sud-Ardèche. Un des premiers points que nous voulions aborder avec vous, c'est celui du PLUI. Nous vous l'avions annoncé, le voilà, il est livré, le PADD du futur PLUI de la communauté de communes du bassin d'Aubenas. Alors, en deux mots, je vous rappelle quand même ce qu'est le PADD. Après une première étape consacrée à la réalisation du diagnostic, la deuxième phase d'étude, à savoir la définition des orientations générales du PADD, qui est le projet d'aménagement et de développement durable, s'est poursuivie avec la tenue d'un débat sur les orientations du PADD lors du Conseil communautaire du 9 avril 2024. Le PADD présente les orientations en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'habitat, de consommation de l'espace, de développement économique, d'équipement, de protection des espaces naturels agricoles et forestiers, de préservation de l'environnement et des paysages. Il doit répondre aux enjeux et aux besoins identifiés dans le diagnostic. Donc ça, c'est le but du PADD et ce à quoi il doit servir. Donc, c'est-à-dire que, comme on essaie de vous l'expliquer quand même depuis plusieurs émissions maintenant, il y a un véritable enjeu pour tous les habitants du territoire, parce que c'est ce plan-là qui va, ce projet d'aménagement, qui va, sur les décennies à venir, définir comment notre territoire va évoluer dans tous ces domaines. Alors, pour en parler, pour informer la population du projet que les élus ont élaboré pour l'instant, il y a des réunions publiques qui sont mises en place, toute une série de réunions publiques sur le territoire. Il y en a 6 qui sont organisées sur la communauté de communes et qui vont porter sur la présentation des orientations de ce projet. Alors, ça a démarré lundi.
Oui, il y a déjà 3 réunions qui se sont tenues à Vaisseau, à Saint-Étienne-de-Fontbellon et à Vals-les-Bains. Et donc, à partir du jeudi 16 mai, donc aujourd'hui, vous avez à 20h à l'espace Liénard, à Aubenas, une réunion. Le mardi 21 mai, à 18h30, la salle des associations à la Ville-Dieu. Le mercredi 22 mai, à 20h, salle Christine Sèvres, Entraigues, pour la vallée d'Entraigues à Sperjoc. Et donc, c'est lors de ces réunions, c'est là que les citoyens peuvent poser des questions, comme par exemple pourquoi régulariser la base de canyoning dans la vallée de la Besorgue. La fédération de pêche est opposée au canyoning dans cette rivière et elle est favorable à cibler le canyoning vers les rivières mortes.
Oui, donc ça, c'est un premier exemple de question. On s'est un peu demandé, à partir des sujets que nous avions abordés ces derniers temps, qu'est-ce qui nous semblait, qu'est-ce qu'on poserait, nous, comme question, et puis qu'on ira peut-être poser, chacun là où on habite. Et par exemple, en lisant le PADD, on s'est posé la question des perspectives économiques que ce projet posait pour notre territoire. Et en premier point, quand on prend la partie économique, le premier point, c'est le tourisme. Donc, en projet pour notre territoire, en premier, c'est le tourisme. Très étonnamment, ce n'est pas l'agriculture. Ça nous a beaucoup surpris. Alors, l'activité touristique, pour favoriser son développement, Hein. Alors qu'on en connaît les conséquences néfastes pour les habitants, la précarité, la faiblesse des revenus, les conditions de travail et de vie dégradées pour tout le monde. Et à contrario, l'agriculture est reléguée en deuxième position, avec pour seule ambition de préserver l'activité agricole. Alors d'un côté, on veut développer, promouvoir le tourisme. De l'autre côté, on veut préserver l'activité agricole. Alors que nous devrions viser aujourd'hui, au vu du contexte international et climatique, à une ambition de se rapprocher le plus possible de l'autonomie alimentaire. On n'est pas, on ne veut pas revenir à l'âge de pierre. Mais voilà, on sait tous, de façon raisonnable, qu'il faut envisager ce genre de choses autrement aujourd'hui. Or, ce PADD fait le contraire. Donc, c'est une des questions que nous, on souhaiterait leur poser dans les réunions où nous serons.
Alors, nous avons aussi constaté que certains élus, de façon plus ou moins ouverte et publique, ont incité les habitants à se dépêcher de déposer des demandes de permis de construire avant la mise en œuvre de la loi, et ce pour mieux la contourner. Ces méthodes ont aussi été appliquées par des élus avant la mise en œuvre du SCOT et du PLUI, jouant la montre. Ainsi, le risque est grand que le PLUI n'ait plus aucun moyen d'agir sur les constructions futures. Les hectares maximum autorisés étant atteint avant même sa mise en œuvre. On se demande au bénéfice de qui.
Alors voilà, c'est la question qu'on pose.
La question qu'il faudrait poser, c'est à qui ça profite tout
ça. À qui ça profite, pourquoi accélérer? Parce que du coup, tous ceux qui auront l'information plus tard, bah, eux, s'ils ont des projets de construction, ils vont pouvoir les se rhabiller, hein, je crois. Il n'y aura plus de terrain disponible. Et puis, une dernière question à laquelle nous avons pensé, parce que c'était un des points qu'on a abordé récemment dans notre émission aussi, c'est la question de l'agrivoltaïsme. On a parlé, je crois, des projets sur notre territoire, et notamment à Saint-Didier-sous-Aubenas. Voilà. Et donc, c'est une question aussi qu'on se pose, parce qu'à la lecture du PADD, on voit pas très bien qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il en est de l'agrivoltaïque, des champs de panneaux solaires avec ou sans agriculture, d'ailleurs? Comment protéger nos terres contre le fait d'être complètement recouvertes par des panneaux? Qu'est-ce qu'ils envisagent là-dessus? On n'a pas trop vu la réponse.
Surtout vu les nombreux projets qui sont soit en cours, qui vont se faire. Et je pense qu'il faut s'en inquiéter. Question importante.
Et puis souvent, on entend par exemple des réponses faciles, on va dire. On entend des gens dire « Ah, mais là, c'est de la garrigue. Si on y met des panneaux, c'est pas grave. » Sauf que la garrigue... On sait, parce qu'ils se sont manifestés, que les bergers les utilisent pour leurs troupeaux. Donc si on a besoin de faire revivre des troupeaux sur nos territoires, on aura peut-être besoin de la garrigue. Donc il y a quand même des questions qui se posent.
Et puis il y a la flore qu'il y a sur la garrigue, elle est vraiment très riche. En fait, c'est des plantes qui sont assez rares et qui donnent du goût aussi au lait.
Voilà,
qui brebis.
Donne son caractère local.
Le caractère.
Donc finalement, il y a des choses qui peuvent être contre-productives pour l'économique si on n'anticipe pas davantage que ça. Alors, toutes les informations et documents de ce PADD, si vous voulez les lire avant de vous présenter dans les réunions ou après les réunions, si vous avez envie de les lire, elles sont accessibles sur le site de la communauté de communes du bassin d'Aubenas. On peut les télécharger et les consulter. Voilà.
Alors, ce serait le moment d'écouter une petite musique qui est assez ancienne, qui parle des touristes, de Jean-Claude Anoux.
L'air conquérant dans leur superbe auto, qu'ils vont conduire comme des chars d'assaut. Ils partent fiers, l'œil vague et le front haut, pour envahir nos plages et nos campagnes. Les touristes, tout feu, tout fou, ça prend tous les risques, ça nage n'importe où, ça veut grimper partout, ça en veut pour ses sous. Les touristes.
Alors, ça fait toujours rire, hein, même quelques décennies après, je trouve que cette chanson est vraiment d'actualité. Et c'est pour ça qu'on va se... Sans transition, on va dire qu'on va aller dans la vallée de la Besorgue, parce qu'on avait reçu récemment des citoyens inquiets de la pression trop forte, justement, du tourisme sur leur vallée. Et donc, ils étaient inquiets par la base de canyoning, il me semble. Mmh. Et là, par contre, aujourd'hui, Dominique est venue nous parler d'un événement annuel. Est-ce que tu peux nous en parler, Dominique ?
Oui, bonjour. Oui, il s'agit en fait des journées européennes des moulins. Oui, parce qu'il n'y a pas que le tourisme dans la Bastille, dans la vallée de la Beaux-Orgues. Effectivement, on avait parlé du canyoning et de sa pratique intensive. Mais dans la vallée de la Beaux-Orgues, il y a aussi des habitants qui vivent et puis qui organisent des manifestations festives. Et donc, c'est ce qui va se passer ce week-end, samedi 18 mai et dimanche 19 mai, à la Bastide-sur-Beaux-Orgues, au Moulin de Charrier. Donc, dans le cadre des Journées européennes des moulins, il va y avoir un certain nombre d'activités. En particulier, si vous êtes intéressé par comment fonctionnait un moulin à l'époque, il y a des visites organisées, donc le samedi 18 de 14h à 18h et le dimanche 19 mai de 10h à 19h toute la journée. Si vous êtes intéressé, il est quand même recommandé de vous inscrire par téléphone au 06 31 61 19 96. Comme ça, vous êtes sûr à la fois de l'horaire et de pouvoir participer à cette visite. Également, il y aura de nombreux artisans et producteurs locaux qui seront présents et qui vous montreront leur production, en particulier des plantes aromatiques, des plantes légumes, etc., des jus de fruits, et également des démonstrations des savoir-faire anciens. On cite en particulier la présence d'un affûteur rémouleur, donc vous pouvez venir avec vos couteaux, vos serpes, enfin tout ce que vous avez affûté, et ben voilà, vous pouvez venir. Il y a également prévu une escapade à l'herbe libre le long de la Beaux-Orgues. Alors là, c'est une petite promenade avec Manon, Naka et Reda qui vous expliqueront où sont les herbes sauvages, comment les reconnaître et quelles sont leurs utilités. Donc, une petite promenade très, très intéressante. Et puis pour les intellectuels, ceux qui veulent comprendre plus de choses, il y a une conférence qui est prévue de Colette Véran, qui est vice-présidente de la Fédération des Moulins de France, à 16h, sur le seuil de nos moulins, un patrimoine à préserver. Alors bon, ceux qui connaissent pas trop le problème des seuils, c'est les micro-barrages qu'il y a sur les rivières, et qui ont permis en particulier donc le moulinage, et puis également ces seuils permettent de pouvoir aussi alimenter les champs, pour les productions agricoles. Donc voilà tout ce qui est prévu dans le cadre de ces deux journées, avec en plus des restaurations sur place, pizza au feu de bois, assiette repas, assiette végétarienne, buvette. Et puis vous pouvez aussi venir avec votre pique-nique en famille au bord de la rivière, voir en fait cette magnifique rivière, et puis discuter aussi avec les gens pour comprendre pourquoi et le canyoning de façon intensive détruit la rivière et comment préserver en fait ce magnifique écosystème que nous avons et qui permet en fait à tous ces gens de vivre et puis de vivre ensemble, et etc. Comment on peut vivre tous ensemble. Alors ces journées sont organisées par deux associations, l'association des Amis de la Vallée de la Beaux-Orgues et l'association des Amis du Moulin de Charrier. Voilà, donc si vous voulez, encore une fois, si vous voulez vous inscrire pour visiter, le 06 31 61 19 96.
Et on peut finir par une musique par rapport au fait qu'il y a beaucoup de touristes qui arrivent là, mais plutôt pour le canyoning.
Oui.
Et on a trouvé une musique un petit peu cocasse, qui date des années 60 et que je vais vous laisser écouter.
Les vacanciers du mois d'août, c'est vraiment une race à part. C'est comme des hiboux avec leurs lunettes noires. Ils se promènent quand ils m'ennuient, on voit plus de poils que de tissu. Moi je rigole quand ils s'assoient dans mes grès de cul. Viens donc voir Germaine. C'est ma femme. Regarde-moi celui-là. Oh ben, c'est un homme ou une femme? Oh ben, c'est une femme. Elle a pas de broguette.
Juste, je profite que Dominique est là. Le moulin de Charrier, en fait, on peut le visiter à cette occasion. C'est, c'est le oui. numéro de téléphone voilà. que tu donnais.
C'est une visite,
voilà.
visite guidée, oui.
Et donc, il a été retapé par Bernard, donc, qui est partie de votre association, et qui peut expliquer à quoi il servait. Enfin, un peu, c'était comme d'autres moulins sur notre territoire. Et puis, tu parlais des seuils. Et de l'alimentation en eau, c'est-à-dire des béalières, en fait, sur notre territoire. Il me semble, je ne sais pas si tu es bien au courant de ça, mais il me semble que tous ces seuils sont en danger aujourd'hui, soit par faute d'entretien, mais soit aussi des fois par certaines normes de circulation d'eau dans les rivières qui font que tous ces seuils qui ont été construits pour pouvoir prélever, pour irriguer, parce que l'eau d'irrigation, in fine, elle revient à la rivière, l'eau des moulins, in fine, elle revient à la rivière quand même, sont en danger aujourd'hui du fait de normes, alors on va dire soi-disant écologiques, je ne sais pas si elles le sont vraiment, par les temps qui courent, on ne sait jamais très bien ce qui est quoi. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé ou que vous abordez ?
Alors, effectivement, le problème des seuils, c'est qu'il y a une directive, je ne sais pas si c'est exactement une directive européenne ou un règlement européen, qui impose à la... Enfin, c'est la France qui, ne respectant pas un certain nombre... de réglementation au niveau de la pollution des rivières, etc. Pour être en réglementation avec l'Europe, a dit, puisque c'est comme ça, on va supprimer tous les seuils existants. Tous les seuils existants sur la rivière, comme ça l'eau circulera librement et il y aura moins de problèmes. Or, ça pose effectivement un problème, puisque les seuils existaient pour les moulinages et également pour les barrières, pour alimenter en fait toutes les campagnes. Et c'est vrai qu'il y a des polémiques là-dessus en cours, puisque supprimer tous les seuils aujourd'hui pourrait poser d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a une réglementation qui s'impose et qui dit qu'il faut tout supprimer. Mais en fait, non, il faut se poser la question systématiquement à chaque fois. Est-ce que ce seuil a encore une utilité? Est-ce qu'on peut l'utiliser effectivement pour la production agricole? Ou s'il ne sert à rien, à ce moment-là, on peut le retirer. Donc en fait, on est dans un système où, si on passe du tout au rien... et c'est pas du tout la solution. Ces seuils ont permis quand même à un écosystème de se créer. Cet écosystème, il est existant. Pourquoi on irait le détruire tout d'un coup? Il faut peut-être, après, il faut se poser des questions. S'il y en a qui servent pas et qui peuvent gêner effectivement la circulation des poissons, peut-être ceux-là, on peut les enlever. Donc on voit qu'on est dans une polémique qui s'installe là-dessus. Pour lequel il y a des pour et des contre, la suppression des seuils. Mais encore une fois, je pense que, comme tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même aux gens et aux pratiquants de la rivière de se mettre tous ensemble autour d'une table et de discuter, à la fois les paysans, à la fois les pêcheurs, à la fois ceux qui font du tourisme, et tout ça, de telle façon à trouver des solutions qui correspondront le mieux, en fait, à l'écosystème existant. Donc encore une fois, pas, je dirais, de système imposé du haut vers le bas, mais une réflexion locale pour pouvoir trouver des solutions qui permettent de satisfaire l'économie locale. C'est-à-dire qu'il faut arriver à des interconnexions entre le tourisme, les gens qui vivent, l'écosystème, de telle façon à ce qu'on puisse préserver en fait tous ces écosystèmes et avoir un tourisme vert qui respecte ce milieu.
Oui, c'est important ce travail de concertation qui manque tellement souvent et qui amène au fait que il y a des haines qui se développent, ou des caricatures, comme on a vu dans les chansons. On a fait le choix de chansons caricaturales exprès pour montrer où mène la non-concertation. Elle ne peut mener qu'à ce genre de choses.
Et à propos de non-concertation, j'aimerais rebondir sur ce qui se passe à Chirol. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'implantation, enfin, le projet d'implantation sauvage de plusieurs antennes relais. Donc, il y a un collectif qui s'est monté après une mobilisation citoyenne et qui a mis une pétition en ligne qui s'appelle Stop Antennes Sauvages à Chirol. Donc, je vous lis rapidement la pétition. Nous, signataires, demandons au propriétaire de la parcelle concernée, à l'opérateur et à monsieur le maire, l'arrêt immédiat du projet d'implantation d'une antenne relais de téléphone mobile de 36 mètres de hauteur à 30 mètres d'une habitation, avec les motifs suivants. absence d'une procédure de consultation de la population, proximité avec les habitations, existence d'un moratoire sur la 5G voté en conseil municipal le 6 mai 2021, danger pour la santé, avec un point d'interrogation, dévalorisation conséquente de la valeur immobilière, légitimité de cet équipement avec un point d'interrogation, destruction de notre patrimoine naturel et de notre paysage. Voilà pour Chirol.
Voilà, et donc à nouveau un collectif citoyen qui se mobilise. Et vu l'heure qui tourne, on va rapidement vous rappeler que samedi, comme tous les samedis à 11h, il y a un rassemblement pour le cessez-le-feu général et permanent en Palestine. La situation s'aggrave de jour en jour. De plus en plus de civils meurent et sont victimes de toutes ces guerres. Donc il est temps que ça s'arrête. Dans les trucs, enfin bon, on en parlera une autre fois, mais il y a des trucs caricaturaux quand même sur lesquels on voit agir l'Europe et qui sont quand même pas de
voilà, et
dignes.
On a l'impression qu'on a de moins en moins la possibilité d'en parler, puisque
oui,
c'est un sujet mais tabou, semble-t-il.
On y reviendra plus longuement, je pense, dans une émission sur tout ça. Et je crois que maintenant, on peut peut-être passer à notre dessert.
On passe au dessert,
on écoute avec
la
petite musique. Voilà. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance has always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I've seen Jewish brothers and sisters out there imbibing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The neck but never ended.
C'était le rappeur Macklemore, désolé pour la prononciation, et le titre c'était Hans Hall. Dominique, je te laisse nous présenter la recette d'aujourd'hui.
Allez, alors aujourd'hui, ben, comme d'habitude, vous savez que la recette que nous vous proposons est toujours une recette en soutien à la culture du peuple palestinien. Et donc on reste en Palestine avec cette délicieuse poêlée de mauve appelée communément harbiz, ou hobbies, qui est une plante sauvage qui pousse un peu partout dans la nature, chez nous aussi, la mauve, on en trouve partout. Une recette rapide à préparer, à base de mauve, d'huile d'olive, d'oignon, d'ail, de jus de citron et d'épices, des ingrédients simples mais qui parfument agréablement cette salade.
Alors, pour les ingrédients, donc oui, il vous faut un bouquet de mauve, environ 200 grammes, ou alors des épinards, si vous ne trouvez pas de mauve, si vous n'en trouvez pas. Donc 50 ml d'huile d'olive, un gros oignon haché, 3 cuillères à soupe de coriandre finement haché, 2 cuillères à soupe de jus de citron, une gousse d'ail haché, une demi-cuillère à café de paprika, sel, poivre du moulin, une pincée de piment rouge et puis quelques olives violettes ou kalamata.
Les kalamata, ce sont les olives noires grecques d'origine. Alors, vous coupez les tiges en gardant la partie tendre de la mauve ou des épinards et vous hachez les feuilles sur 1 cm de large. Vous les mettez dans un bol rempli d'eau. Vous rincez bien la mauve jusqu'à ce que l'eau soit claire. Chauffez l'huile d'olive à feu moyen dans une poêle. Faire revenir l'oignon pendant 3 à 5 minutes jusqu'à ce qu'il soit ramolli et légèrement doré. Ajoutez la mauve, donc l'harbiz, l'ail, le sel, le poivre et le paprika. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que ça soit cuit. Versez dans un petit plat de service, ajoutez le jus de citron, le piment rouge, des petites olives si vous avez envie, et vous mangez ça tiède avec un bon petit pain du pays.
Et alors, il est temps de conclure. Donc, je vous rappelle le mail pour vos réactions, infos, suggestions. Donc, paroledecitoyen@fréquence7.net, tout attaché en minuscules. Et je vous dis à bientôt.
Au revoir.
Et merci pour la réalisation de l'émission à Sylvain. Au revoir.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoit.
pointer nos voix vont au con. On les consacre que leur sacré con.